bonsoir. Je crois qu'on est peut-être le soir le plus nombreux. Donc, ça veut peut-être dire que certains parmi vous n'étaient pas là les autres soirs, ce qui n'est pas de ma part un reproche, c'est juste un constat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pu assister à aucun des soirs? Une personne? D'accord. Deux, trois? Ok. Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu assister à deux des trois soirs qui ont déjà eu lieu? D'accord. Ok. Alors, je vais évidemment continuer un bout, ce que nous avons commencé, puis en même temps, je tâcherai de faire des liens pour que vous ne soyez pas trop perdus. Et puis, s'il y a des éléments que tout d'un coup, vous dites, mais de quoi il cause là? Ben, demandez pas à votre voisin parce que ça va le perturber. Mais il paraît qu'il y a des enregistrements, donc vous pourrez vous mettre à jour, faire un update dans les jours qui viennent. Mais voilà. Et puis en même temps, ce soir, on voulait aborder deux questions, deux points qui nous paraissent fondamentaux par rapport à la culture de l'honneur. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que sur la table du fond, il y a ces deux petites cartes qui sont des accès à notre blog d'une part. C'est entièrement gratuit. Inscrivez-vous si vous souhaitez avoir des articles régulièrement sur la question de l'honneur, une fois tous les 15 jours. On essaye de faire des choses qui soient lisibles, agréables et digestes. On essaye, on n'arrive pas toujours. Et puis l'autre petite carte, celle qui a les trois QR codes derrière, c'est l'accès à des cours qui, eux, malheureusement, sont payants, mais compte tenu de la qualité, vidéo, traduction, etc., ben, c'est normal qu'il y ait un coût. Quand j'appelle le plombier, j'ai aussi un coût. Je n'en connais pas qui travaille gratuitement, en tout cas, en Suisse. En France non plus? Ah bon, alors ça me rassure. Et puis, il nous reste 4 ou 5 livres, Honneur et puissance, si certains d'entre vous les souhaitent. Ils seront peut-être encore là demain ou il n'y en aura plus, mais vous pouvez, à la fin de la soirée, aller voir ça de près. Donc l'idée de cette culture de l'honneur, c'est de vivre entre nous, à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église, des relations qui soient bénissantes, encourageantes, qui font grandir sans peur, sans crainte, c'est la même chose, sans comparaison, sans compétition, sans jalousie, sans infériorité, sans supériorité, tout ce qui pourrit nos relations et qui nous fatigue. L'idée, c'est aussi qu'on arrête de perdre de l'énergie dans nos relations, mais qu'au contraire, les relations nous donnent de l'énergie, de manière à ce que nous puissions la mettre ailleurs, d'où aussi l'idée de honneur et puissance. En termes de résumé, Chouchou, c'est bon, il y a tout là, ou bien je peux aller un petit bout. Donc on avait terminé hier soir sur une définition, si vous vous souvenez. Je démarre ce soir sur une autre définition, mais qui donnera un petit peu un terrain commun à tout le monde. C'est une définition que j'emprunte à un homme qui s'appelle Paul Manwaring. Il a donné cette définition en anglais. Moi, je l'ai traduit comme j'ai pu. Et ça donne quelque chose comme ça. Chaque fois que je reconnais en quelqu'un les attributs, la nature ou la puissance de Dieu, je commence à honorer. Chaque fois que je vois chez l'autre l'image du Seigneur, je commence à honorer. Chaque fois que je vois chez l'autre un être aimé du Seigneur, je commence à honorer. Oui ?
Ben oui, avec joie.
Alors, en gros, il y a deux types de personnes que nous pouvons honorer. Il y a, comme disait Thierry, tout le monde. Pourquoi ? Parce que chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque personne est une merveille que Dieu a créée. Et à ce titre, chacune est digne d'être honorés. Et en plus, quand nous connaissons le Seigneur Jésus et que nous avons reçu son esprit en nous, il habite en nous, et quel trésor est-ce qu'on réalise à quel point nous sommes ces vases d'argile qui transportons un trésor inestimable. Et le Seigneur Jésus est mort pour chacun, c'est dire à quel point nous avons de la valeur.
Merci chérie. Donc j'aimerais ouvrir deux volets ce soir, et puis à la fin on va les mettre ensemble. Le premier, qui est une clé pour la culture de l'honneur, c'est la bonté de Dieu. Si je vous demandais « est-ce que Dieu est bon ?», je pense que chacun répondrait « oui ». Globalement, oui. Et en même temps, il arrive que nous en doutions un peu. Surtout quand des tuiles nous tombent dessus. C'est une expression que vous comprenez, ça, une tuile, ça joue. Je vérifie, hein, parce que, vous voyez, on a l'habitude d'être dans des pays exotiques comme la France, donc, voilà. Quand quelque chose ne va pas comme on aimerait, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que la bonté de Dieu est infinie ou pas? Est-ce que la bonté de Dieu est absolue ou pas? Ou bien est-ce qu'il n'y a quand même pas en lui un petit côté qui voudrait de temps en temps nous piquer avec un petit peu de pour nous faire réagir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important qu'on réalise que la bonté de Dieu est infinie et inépuisable. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Pourquoi c'est important? Alors je prends l'image suivante. Imaginez un instant que vous êtes invité à un anniversaire ou à une fête, et puis il y a un gâteau, mais le gâteau, quoi. Vous savez, le truc qu'on mange une fois dans sa vie, tellement c'est bon. Il est phénoménal, ce gâteau. Et au moment où on coupe le gâteau, les gens se mettent en file avec une assiette pour petit à petit venir chercher un morceau de gâteau. Vous saisissez? Puis c'est une grande fête. Donc vous êtes à la 824e place dans la file, voyez? Mais vous avez une bonne vue. Alors vous voyez le gâteau là-bas. Et puis vous voyez que la personne qui distribue le gâteau est vraiment généreuse. Elle fait des bonnes parts, voyez? Et puis le gâteau, il diminue quand même un peu, quoi. Et puis au moment où vous n'êtes plus qu'à la 483e place, vous vous dites, oulala, ça ne va pas le faire. Il va en manquer un bout, quoi. Et il y a la crainte de manquer, la crainte de ne pas pouvoir goûter le délicieux gâteau. Vous saisissez? Ça, c'est quand les gâteaux sont très grands, très très grands, mais finis. C'est le mathématicien qui parle. Infini, ça veut dire le contraire de infini. Ça veut dire qu'ils ont une limite et qu'à un moment donné, le gâteau peut être épuisé. Maintenant, vous imaginez la même fête où il y a un gâteau magique qui ne s'épuise jamais. Vous voyez? Chaque fois qu'on prend une grosse part, il y en a toujours autant qu'avant. Mais vous pouvez être à la 2892e place, vous êtes toujours sûr que vous aurez un morceau du gâteau. Vous saisissez? C'est pour ça que c'est important de réaliser que la bonté de Dieu est infinie. Parce que si je veux que chacun de mes frères et de mes sœurs reçoive pour leur vie de la bonté de Dieu autant qu'ils en ont besoin, il faut que je sois sûr qu'il ne va pas m'en manquer à moi. Sinon, j'ai un réflexe de retenir un peu. Vous saisissez ? C'est le problème de la comparaison. Alors, ça paraît simple à dire comme ça, et puis assez facilement, on dit « Ouais, mais non, moi, ça ne me concerne pas. » Mais réfléchissez un peu. Je vous donne un exemple. Vous êtes converti depuis 40 années. Vous êtes fidèle au Seigneur. Vous vous êtes engagé pour lui. Vous agissez dans l'Église. Vous venez aux réunions. Vous lisez votre Bible tous les jours. Vous priez avec votre conjoint. Vous éduquez vos enfants dans la foi. Il y a une bénédiction, peut-être un don spirituel, peut-être une grâce particulière, dont vous rêvez depuis 40 ans. Et fidèlement, vous dites, « Seigneur, j'aimerais beaucoup avoir cette bénédiction. » Vous voyez, vous êtes dans la file en direction du gâteau, mais vous êtes assez loin dans la file. Et puis tout à coup, il y a ce gars-là, ce nouveau converti, le gars qui vient à l'église depuis 10 jours, il n'a même pas encore compris la différence entre Moïse et Abraham. La Bible, il n'en connaît rien. Il a juste fait une rencontre avec le Seigneur. Et puis, quand il vient à l'église, il sent encore le tabac. Il a des tatouages sur les épaules. Vous voyez, il ne se comporte pas comme il faut. Et puis, ce dimanche-là, il s'assied à côté de vous. Puis tout à coup, vous entendez qu'il a reçu, lui, la bénédiction que vous, vous attendez depuis 40 ans. Vous voyez ? Seigneur, merci parce que tu as donné cette grâce au corps du Christ. Ou bien, Seigneur, mais quand même, ça me réjouit pour lui. Je suis content. Mais, vous saisissez ? À ce moment-là, on commence à douter de l'infinie bonté de Dieu. On commence à penser que Dieu a des chouchous. Il y a des gens qui reçoivent et il y a des gens qui ne reçoivent pas. Aïe, aïe, aïe. Donc la bonté de Dieu, si je veux pouvoir honorer le jeune converti, c'est important que je n'en doute pas pour moi. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser, comment est-ce qu'on peut essayer de s'imprégner de cette réalité que la bonté de Dieu est infinie ? Alors, il y a un texte biblique que j'aime beaucoup et puis que je vais vous lire. C'est dans l'Exode, c'est au chapitre 33, c'est une prière de Moïse. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Vous vous souvenez ? Fais-moi voir ta gloire. Alors, j'ouvre une parenthèse. Moi, j'aime cette prière de Moïse. Moïse, franchement, il est gâté. Hein ? Il a tout eu dans sa vie. Il a tout vu. Franchement, il a eu bon, il a été sauvé des eaux, tout ça, il ne s'en souvient pas, il est bébé, machin, tout. Mais si on commence un petit peu au moment de la révélation, il a le coup du buisson ardent. Déjà, rien que ça, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Puis après, il a... alors, je saute un peu. Hein. Après, il a, par exemple, les 10 plaies d'Égypte. Après, il a la mer qui s'ouvre. Vous voyez ? Vous connaissez cette histoire de la mer qui s'ouvre ? Je vous raconte un gag à ce niveau-là. Hein. C'est une petite fille à l'école... ils sont en train de parler d'enseignement biblique, parce que dans notre beau pays, ben, il y a encore des leçons bibliques à l'école, dans certains cantons. Mais l'instituteur, il explique à propos du texte de la mer Rouge qu'en fait, ce n'était pas la mer qui s'est ouverte, mais en fait, ils ont traversé à gué, là où il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait quelques centimètres, voyez, et puis que tout ça, c'est des histoires. À ce moment-là, la petite fille au fond de la classe, elle s'écrie « Miracle !» L'instituteur dit « Mais pourquoi ?» Elle dit « Pharaon et toute son armée s'est noyé dans 10 centimètres d'eau. » Miracle. Donc, il a vu la mer s'ouvrir. Il a vu tellement de choses. Et il est là devant l'Éternel et il en veut encore plus. « Fais-moi voir ta gloire. » Et la réponse de Dieu est très touchante. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Moi, j'ai longtemps cru que c'était un lot de consolation. Que Dieu est en train de dire à Moïse, « Tu demandes trop. » Mais je vais te donner quelque chose à la place. Tu veux voir ma gloire ? Non, 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 tu ne verras que ma bonté. Vous comprenez ? Mon incompréhension ? Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit, Moïse demande, fais-moi voir ta gloire, et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il y a un lien entre la bonté de Dieu et sa gloire. J'ai envie de dire, Dieu est glorieusement bon. Ou pour le dire autrement, la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Et ça nous change complètement de nos concepts de bonté. Et ça, je vais y venir dans quelques minutes. Donc, dans Exode 33, on a Moïse qui dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et puis un peu plus loin, on a l'exemple inverse avec Salomon, au moment où il dédicace le temple. Vous savez, il y a ce grand chant où il est répété « car il est bon ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La gloire de Dieu remplit la maison. Il y a un lien entre la bonté de Dieu et sa gloire. Dieu est glorieusement bon. Et Moïse monte sur la montagne, et puis il a tout son petit commerce avec Dieu, Dieu passe devant lui, il lui cache sa face, pas sa gloire. Il lui cache sa face. Ça, c'est sûr, on ne peut pas voir la face de Dieu. Et si vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe après ? Moïse redescend de la montagne, et son visage est illuminé. C'est la trois ou quatrième fois qu'il monte sur la montagne, qu'il rencontre Dieu et qu'il redescend. Mais c'est la première fois que son visage est illuminé. Et moi, je pense, c'est mon hypothèse, je n'en ferai pas une doctrine, mais c'est mon hypothèse que cette fois-ci, le fait d'avoir compris, vu, réaliser la bonté de Dieu, fait que son visage est illuminé. Et moi, j'ai un rêve pour ma vie. Moi, je voudrais avoir compris la bonté de Dieu au point où, quand j'arrive quelque part, ça se voit et que ça interroge. Parce que la bonté de Dieu, c'est la réponse aux problèmes de notre monde. Et si on veut impacter ce monde, on ne peut le faire qu'à partir de la bonté de Dieu. Il n'y a aucune autre réponse. C'est la bonté de Dieu qui envoie Jésus. C'est la bonté de Dieu qui veut bénir ce monde, qui nous aime, qui appelle les gens à lui. C'est la bonté de Dieu qui fait ça. Dieu est bon. Alors ça, c'est le texte Ah non, pardon, ça c'est la suite. Alors, comment ça se fait que nous, les humains, nous ayons tellement de peine à réaliser cette extraordinaire bonté de Dieu? Alors, je vais vous faire part d'une de mes réflexions bibliques et j'aimerais tout de suite dire, encore une fois, ce que je vais vous dire n'est pas une doctrine. Ce que je vais vous dire, c'est une réflexion à partir du texte biblique. Parce qu'on a le droit de réfléchir à partir du texte biblique. Et puis, on n'est pas obligé de tout le temps en tirer une doctrine. Mais c'est une réflexion. Vous vous souvenez que quand Dieu crée le monde, Dieu donne à Adam et Ève de manger de tous les arbres du jardin, mais il y en a un dont ils n'ont pas le droit de manger. Vous vous souvenez lequel c'est? Oui? Tu rigoles, moi aussi. On est deux et c'est super. Ils n'ont pas le droit de manger de l'arbre, dans nos traductions françaises, de la connaissance du bien et du mal. En français, on a cette différence entre le bon et le bien. En hébreu, on ne l'a pas. C'est le même mot et c'est bon. Dieu vit que cela était bon. C'est le mot tov. Dieu vit que cela était très bon. Tov meod. C'est le mot tov. Donc, on pourrait traduire l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Ce qui enlève la connotation morale. Parce que c'est bien, mon petit. Vous saisissez? Dans bien, il y a une connotation morale. Il y a d'autres langues où il n'y a pas cette différence. Il me semble qu'en anglais, on n'a pas la différence. C'est good, good, et puis good. Il n'y a pas bien. En allemand non plus, on n'a pas cette différence. En français, on l'a. Et puis, il dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. Mon hypothèse, c'est qu'au moment où l'homme touche à l'arbre interdit, il commence à relativiser la bonté. C'est-à-dire qu'il commence à mettre dans la balance le bon et le mal. Et c'est à partir de là où nous avons l'habitude de considérer le bon et le mal comme des contraires, alors que ce ne sont pas des contraires. Le bon, c'est le bon absolu, c'est la bonté de Dieu. Le mal n'est pas le contraire du bon, c'est autre chose. J'illustre ça avec un exemple tiré de la physique. Moi, je vous ai dit, je suis mathématicien aussi, j'ai fait de la physique, j'ai fait de l'astrophysique, j'ai fait deux, trois trucs comme ça assez rigolos. Quand on fait, dans notre monde, quand on dit le contraire de la lumière, c'est les ténèbres, eh bien c'est faux. Les ténèbres ne sont pas le contraire de la lumière. Ce ne sont pas deux forces opposées, plus ou moins de même intensité, et puis on doit mettre le curseur au bon endroit pour avoir de la lumière. Alors, je vais vous le prouver par une formule scientifique extrêmement compliquée. Donc, il faut vous... Non, mais je rigole. Un tout petit peu de lumière chasse l'obscurité. Vrai? Vrai. Est-ce qu'un petit peu d'obscurité peut chasser la lumière? Non. Ce ne sont pas des forces opposées. La lumière, c'est la lumière, et les ténèbres, c'est autre chose. Vous pouvez, ceux d'entre nous qui avons quelques cheveux blancs, on a connu l'époque des appareils photo argentix. Vous vous souvenez? Avec des films. Il y en a qui n'ont peut-être pas connu ça. Alors on mettait des petites bobines dans les appareils, puis il y avait 36 poses, et puis on faisait... Et puis ça coûtait cher. On ne faisait pas 12 photos de la même chose, parce que quand même, après, il fallait développer le film, puis après, il fallait tirer la photo sur papier, et puis c'était quand même assez cher, ou alors on faisait des diapositives, c'était un peu moins cher, mais quand même. Avec Monique, à l'époque, on s'amusait à développer nos films noir et blanc nous-mêmes. Or, pour développer un film noir et blanc, pour le sortir de la petite bobine noire et puis le mettre dans le rouleau dans lequel on mettra ensuite les produits, il faut l'obscurité absolue. C'est après qu'on peut avoir la lumière rouge. Vous vous souvenez ? La lumière rouge, c'est quand on passe du film au papier. Mais quand on veut développer le film, il faut une lumière. Enfin, il ne faut pas de lumière. Et nous, on faisait ça dans notre salle de bain. Et on obscurcissait la salle de bain. Mais c'est vraiment difficile d'obscurcir une salle de bain. C'est très compliqué d'obscurcir une salle de bain. Il y a toujours une petite fente à la porte, un trou à la serrure, un tout petit bout à la fenêtre, où là, il y a un rayon de lumière qui passe, aussi ténu soit-il, il n'y a plus d'obscurité. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le bon, c'est le bon, ça chasse tout, et le mal, c'est autre chose. Mon hypothèse, c'est que l'humanité a été privée de la capacité de comprendre le bon en introduisant la compréhension du mal, en mangeant de cet arbre. Et c'est à partir de là où on fait des additions et des soustractions. C'est bien, c'est bon quand c'est pas mal. C'est mal quand c'est pas bon. Mais ça n'a rien à voir. C'est ce que j'appelle la théologie de bistrot. Vous avez déjà connu ça ? Allez prendre l'apéritif avec vos collègues de travail vendredi soir. Et puis, vous mettez la conversation gentiment en direction de Dieu, voyez, comme ça, vous, hein, mine de rien. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour dire, mais comment est-ce que tu peux croire en un Dieu bon quand on voit le mal qu'il y a dans le monde ? Ça, c'est le fruit du fait que la notion du bon glorieux a été ébréchée. Ça va jusque-là ? Donc, si on veut pouvoir honorer les gens sérieusement, il faut qu'on retrouve cette notion du bon. Il faut qu'on se réapproprie la réalité de la bonté absolue de Dieu. Dieu aime les gens sans condition. Dieu veut bénir. Le désir du cœur de Dieu, c'est de répandre sa bonté. À partir de là, il y a nous qui résistons. Mais c'est autre chose. Ça n'enlève rien à sa bonté. Ça n'enlève rien à sa gloire. Ça n'enlève rien à sa glorieuse bonté. Dieu est bon, absolument bon. Aucun doute là-dessus. Fin du premier volet. J'ouvre le deuxième. Verset biblique. L'amour parfait, qu'on pourrait aussi paraphraser en la bonté absolue, l'amour parfait bannit la crainte. La bonté absolue de Dieu bannit la crainte. On réfléchit avec Monique beaucoup à ces questions et on en est au stade de notre réflexion, au point suivant. Dans ce monde, il y a deux forces motrices. Il n'y en a pas plus. Tout se ramène à ces deux forces motrices. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est la peur. On agit soit par amour, soit par peur. Alors, je vous donne un exemple. Puis, ça me fait rire parce que, voilà, on a parlé de culture le premier soir, donc vous allez comprendre pourquoi. Quand vous vous arrêtez au feu rouge, vous le faites avec quel moteur ? Est-ce que c'est la crainte de l'accident, du gendarme, du radar, de tout ce que vous voulez ? Ou bien est-ce que c'est l'amour de ceux qui vont pouvoir passer voir l'amour de l'ingénieur qui a conçu le carrefour. Je vous promets que ça change la vie. Qu'est-ce qui me met en mouvement ? L'amour parfait est antagoniste à la crainte. C'est un choix. Et si je veux honorer les gens, si je veux que mes relations soient, je recommence, sans comparaison, sans compétition, sans jalousie, sans infériorité, sans supériorité, encourageante, faire grandir l'autre, bénissante, etc., eh bien, il faut que mes relations soient mues par l'amour. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à détruire la crainte. Or, pour détruire la crainte, ben, il faut la comprendre. Leanne Payne disait qu'il faut peindre le dragon en rouge, histoire qu'on le voit. À partir de là, on peut lui dire « ça suffit ». Mais tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on le met sous le tapis, nous on a une expression, je ne sais pas si vous aussi, on dit « mettre l'éléphant sous le tapis ». Vous voyez, il y a un éléphant chez vous, ça peut être de la dispute, de la peur, de tout ce que vous voulez. Puis il y a des amis qui arrivent, ils sonnent à la porte, alors on met l'éléphant sous le tapis, puis on va ouvrir. « Coucou ». Puis les gens, ils entrent, puis nous, on est tout contents parce que l'éléphant, il est sous le tapis, mais les gens, ils voient la bosse, hein, quand même. Ça, c'est quand on veut lutter contre la crainte, mais en la cachant. L'important, c'est de la mettre en évidence, si on veut lutter. Et on vous a dit que pour entrer dans la culture de l'honneur, ça allait toucher des racines profondes en nous. Hein, pour rouler à gauche, ça touche beaucoup de choses en nous. Alors, on a essayé de classer un petit peu les peurs pour qu'on puisse, devant Dieu, se mettre de dire « Seigneur, c'est laquelle qui me concerne ? C'est où que je dois confesser ?» Parce que pour lutter contre un péché, parce que la peur, c'est un péché, pour lutter contre un péché, ben, il faut le connaître, le reconnaître et puis le confesser. Et puis, y renoncer. Et puis, il y a des péchés où ça se fait toc, puis il y a des péchés, il faut recommencer tous les jours. Ça, c'est un mystère, mais il faut recommencer. Mais on peut s'améliorer. On peut progresser. Alors, on a classé avec Monique les peurs en trois catégories. Alors, je veux décrire ces trois catégories. Je vais vous donner des exemples. Pendant ce temps, laissez la colombe vous parler. Et s'il y a un point qui vous concerne, prenez le temps juste de dire à la colombe, OK, on va s'en occuper. Parce que j'ai envie de m'en débarrasser, parce que j'ai envie que l'amour parfait, la bonté absolue de Dieu, soit mon moteur et non plus la crainte. Vous comprenez ? Laissez la colombe agir. J'en parle d'autant plus que moi, j'ai connu ces peurs et que je les connais encore parce que j'ai mes rechutes. La première, c'est la peur de manquer. La peur du manque. Je vais manquer. Il n'y en aura pas assez pour moi. C'est le gâteau, 832e place. Hein ? Ou puis cette grosse part. Ah non, mais quand même, elle aurait pu la couper en deux. Vous voyez ? Ça, c'est la peur de manquer. La deuxième peur, c'est la peur de ne pas en avoir pour son argent. C'est en guillemets, c'est une expression. Ça veut dire, j'ai pas peur de manquer, mais j'ai peur qu'avec tout l'effort que j'aurais fait, ça n'en aura pas valu la peine. Vous voyez, j'ai investi, mais ça ne rapporte pas. Alors, on verra tout à l'heure en détail ce que ça veut dire dans les relations, ce que ça veut dire dans la relation avec Dieu, ce que ça veut dire dans la relation avec moi-même, ce que ça veut dire dans la relation aux choses. Parce qu'il faut démasquer ses peurs. Le peuple de Dieu marche souvent sous la peur. Parce que c'est la bonté absolue qui détruit la peur. Et on a perdu la bonté absolue de Dieu. La troisième peur, c'est la peur d'être vulnérable. Ou pour le dire autrement, c'est la fausse confiance dans ma richesse. Alors quand je dis richesse, ce n'est pas uniquement pognon, hein. Quand je dis richesse, c'est compétence, c'est capacité, c'est expérience, c'est intelligence. Moi, je sais, j'ai l'habitude, etc. Pardon ? Relations, j'ai beaucoup de relations, donc je crains rien, enfin, etc. C'est finalement une peur d'être vulnérable, c'est-à-dire de montrer une faiblesse. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Ah ben il y a un 2-2, dis donc, chouchou, t'as vu, c'est moche. Hein. L'esprit d'orphelin, c'est-à-dire quand on n'a plus ou la relation à notre père est fragile. Et quand on met en doute la bonté, on fragilise la relation au père. Et l'orphelin, c'est quelqu'un qui a peur de manquer, qui a peur d'être vulnérable, et puis quand il n'a pas peur de manquer, il faut que ça vaille la peine. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder ces trois peurs en détail et puis de regarder ce qu'elles font dans le rapport aux choses, dans le rapport aux gens, ça c'est pour la culture de l'honneur, dans le rapport à soi-même, c'est aussi pour la culture de l'honneur parce que je ne peux pas être en relation constructive avec quelqu'un si je ne suis pas en paix avec moi-même. Et puis la relation à Dieu, c'est aussi très important. Alors la première de ces peurs, c'est la peur de manquer. D'accord ? Quand on a peur de manquer. Le rapport aux choses, c'est qu'on en veut beaucoup pour le prix. Alors je vous laisse juste laisser ça résonner. Les choses, j'en veux beaucoup pour le prix. La qualité, ce n'est pas très important. Ce que je veux, c'est beaucoup. Alors, je vous donne un exemple de ma vie. Je vous ai dit que j'ai grandi dans une famille modeste, avec peu de moyens. Et je me souviens qu'un jour, je ne sais pas pour quelle raison, notre maman, à mon frère et à moi, nous a donné à chacun une pièce de 2 francs. À l'époque, ça fait une bonne cinquantaine d'années. C'était, je pense, à peu près l'équivalent de 10 euros, je dirais, à peu près en valeur, pouvoir d'achat, quelque chose comme ça. Donc, c'était une fortune. Et puis, elle nous a dit, vous pourrez vous acheter des bonbons. Et c'était la fête. Et moi, je me souviens, parce qu'à cause du manque, la peur de manquer s'était installée en moi. Et je me souviens avoir été au kiosque, et avoir demandé à la dame qui vend les bonbons, « Madame, j'ai 2 francs. » Je devais avoir là aussi dans les 6-8 ans, quelque chose comme ça. « Madame, j'ai 2 francs. Qu'est-ce que je peux avoir le plus pour 2 francs ?» Je m'en fichais du goût. Je m'en fichais du genre. J'en voulais le plus. Vous comprenez ? Et à l'époque, ce qu'on pouvait avoir, c'était des carambars. Vous connaissez les carambars ? Au caramel. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le goût, hein, fraise, machin, c'était au caramel. Et il coûtait 5 centimes suisses la pièce. C'est en fait la valeur la plus petite. Nous, on n'a jamais eu des 1 et des 2 centimes. Hein. C'est 5 centimes la pièce. C'était 5 centimes pièce. Donc, je suis reparti avec 40 carambars. J'étais à l'abri. Je me souviens, j'étais riche de mes 40 carambars. Je ne risquais plus de manquer de bonbons. J'étais ravi, j'en avais eu beaucoup. Ça s'est un peu gâté quand il a fallu les manger. Parce que manger un carambar, c'est déjà un sacré exercice. Au deuxième, on s'encourage ? Au troisième, ça colle. Et il y en a encore 37. Ça, c'est beaucoup pour le prix. Vous saisissez ? Ça, c'est la peur de manquer. Le rapport aux gens, l'important, c'est de ne pas être seul. La peur de manquer de relations. Donc, pour ça, on fait tout pour être apprécié. Et ça fausse les relations. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir être apprécié de quelqu'un. Alors, vous cherchez la relation, etc. Mais vu de l'autre côté, vous êtes lourd, comme on dit. La relation n'est pas simple. On a la chance de côtoyer, enfin la chance, je ne sais pas, ça nous arrive de côtoyer, vous savez, ce qu'on appelle les grands ministères. Les gens qui ont toujours leur tête sur les affiches, etc. Mais plusieurs nous disent, mais une de nos grosses difficultés, c'est les gens qui ont besoin d'être appréciés. Parce que ces gens-là, ils cherchent par tous les moyens à être en lien avec nous. Et on n'a pas le temps d'être en lien avec tout le monde. Mais vous non plus. On a nos cercles de priorité. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le rapport aux gens. Donc vous imaginez bien que dans ce genre de position-là, c'est difficile d'honorer. C'est du faux honneur. Hein, c'est de, comment on dit, j'allais dire, l'onctuosité, c'est pas ça, c'est passer la pommade, c'est la flagornerie, c'est un mot fort, hein, ça, flagornerie, mais c'est être obséquieux, c'est, voyez, c'est des choses comme ça. Mais c'est pas honoré. Pardon ? Lèche-botte, ouais, c'est aussi un peu dur. Tu me fais dire des choses, chérie. Arrête de voir de penser un moment. Oui. Le rapport à soi-même, c'est très intéressant. Le rapport à soi-même, c'est qu'on veut bosser. Vous dites bosser en français. Ça veut dire travailler, mais vraiment travailler, quoi. Bosser pour enfin se divertir. C'est des gens, ils n'ont qu'un but, c'est le soir. Qu'un but, c'est le week-end. Qu'un but, c'est la retraite. On bosse pour se divertir. C'est difficile d'être dans un ministère, dans la banque ou dans n'importe quel métier qu'on fait, si on est là-dedans. C'est difficile d'honorer ses collègues de travail, c'est difficile d'honorer ses chefs, c'est difficile si on est là pour bosser, pour enfin un jour, tout à l'heure, pouvoir se divertir. Oh, on dirait que le Saint-Esprit fait rire des gens. Hein ? Le rapport à Dieu, c'est que le risque, c'est qu'il me lâche et que je me retrouve en manque de Dieu. Il peut me lâcher. Il y a des gens qui pensent que Dieu peut les lâcher. S'ils ne font pas ce qu'ils devraient, Dieu va les lâcher. Moi, j'ai rencontré en relation d'aide, Monique pourrait sûrement en témoigner aussi longuement, des gens qui disent « Toute ma vie, j'ai tout fait pour que Dieu ne me lâche pas. Et je suis fatigué. » Il y a de quoi. Ça, c'est la peur du manque. Et c'est une peur qu'on doit démasquer. Parce que si elle est en nous, elle est un puissant moteur. Et elle empêche des relations saines. Et ce qui permet de lutter la contre, c'est la bonté absolue de Dieu. Parce que Dieu est bon. Absolument bon. Rien ne peut ébrécher sa bonté. C'est l'apôtre Paul qui dit ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni etc. Romains 8 ou 12, ou je ne sais plus exactement. C'est 8 c'est 8, je ne sais plus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Parce que Dieu est bon. Deuxième colonne, la peur de ne pas en avoir pour son argent. Donc, c'est autre chose, vous avez bien compris, hein, on n'a plus tellement peur de manquer, mais on a peur que ça n'en vaille pas la peine. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le rapport aux choses ? Ben, dans le rapport aux choses, ça dit qu'on veut de la qualité pour le prix. Le prix n'est pas très important, mais on veut de la qualité. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si c'est le moteur de ma vie, alors ce n'est pas très bon. J'avais marqué pour la peur de manquer, local. Dans la peur de ne pas en avoir pour son argent, on est prêt à aller voir ailleurs si la qualité est meilleure. Alors je vous donne un exemple de ma vie. Je ne peux pas donner un exemple de la vôtre, hein, ça je vous laisse faire avec. Monique pourrait en témoigner. Moi, quand on doit acheter quelque chose, en général, je me renseigne tellement pour savoir tout sur l'objet que je veux acheter, les avantages, les inconvénients, les différentes marques, les machins, que quand je vais au magasin, j'en sais plus que le vendeur. Alors le vendeur, il me casse les pieds, parce que j'ai encore deux questions où je n'ai pas trouvé la réponse sur Internet, et quand je lui pose la question, il ne sait pas. Vous voyez ? D'ailleurs, j'ai toujours dit à Monique, parce qu'il y a deux, trois trucs dans ma vie qui m'ont toujours beaucoup intéressé, j'ai toujours dit à Monique, mais je devrais être vendeur de ce truc, je sais mieux que tous les autres. Parce que moi, un de mes problèmes, je les ai tous, hein, moi, ça fait partie de ma vie, et je lutte la contre, c'est vraiment une lutte. Mais moi, un de mes problèmes, c'est que, je ne dirais pas ça m'est égal le prix, parce qu'on a une limite budgétaire quand même, mais je veux le meilleur. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est intéressant d'ailleurs, parce que je parlais avec mes filles. Je ne sais pas si toutes les filles du monde sont comme les miennes, mais elles ont un fonctionnement qui n'est pas le même que le mien. Par exemple, elles achètent des souliers de mauvaise qualité, pas cher. Vous voyez ? Et moi, je leur dis, mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Puis elles me disent, mais non, papa, c'est joli. Eh ouais. Qui a raison, qui a tort ? Ça dépend tout de mon système de peur. C'est joli. Ça durera ce que ça dure, mais j'ai du plaisir. On verra plus tard à quoi ça correspond. Le rapport aux choses. Le rapport aux gens. Qu'est-ce que ça donne quand je veux investir et que ça rapporte dans la relation ? Eh bien, ça dit que je vais choisir des gens qui ont réussi pour me mettre en relation avec. Je vais subordonner mes choix relationnels à la réussite. Et là, c'est l'autre catégorie des gens qui veulent toucher les grands ministères. Ils ont réussi, alors je veux me mettre à leur service absolument, être tout près, et puis qu'ils soient mon ami. Et puis, vous comprenez ? Parce que lui, il a réussi. Donc, sa réussite, ça vaut la peine d'investir. Dans les grandes églises, c'est « je veux être l'ami du pasteur principal. Je veux être l'ami du leader de louange pour que ça vaille la peine. » Vous saisissez ? Ça, c'est en vouloir pour son argent. Ah, je dis bien « en soi, c'est pas mauvais, c'est mauvais quand ça devient le moteur de ma vie. » Mais c'est vrai que ce n'est pas complètement idiot de choisir un objet de qualité si on a la possibilité de l'acheter. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est clair. C'est ça la difficulté. L'ennemi, il fait toujours ça. Il prend des bonnes choses et puis il les tord. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les choses pour les remettre à l'endroit. C'est ça qui est important. Le rapport à soi-même, c'est plus bosser pour se divertir, mais c'est travailler pour réussir. Parce qu'il faut que ça vaille la peine. Je veux bien travailler, mais il faut que ça me mène à la réussite. De nouveau, de l'ambition, c'est pas mauvais. Mais quand c'est le moteur, comment je vais faire pour être en relation avec les gens autour de moi? Est-ce que je vais les utiliser parce qu'eux ont réussi, donc je vais m'appuyer sur eux pour que moi je réussisse? Vous saisissez? Comment honorer les gens si on est dans ce genre de relation? Et puis le rapport à Dieu, si je fais juste, il ne me lâche pas. Et c'est crevant. Je me souviens à une époque, quand on était jeune, on nous expliquait qu'un culte personnel, c'était tous les jours et au moins trois quarts d'heure. Moi, je n'ai jamais réussi. Je n'ai pas le temps. Alors je me disais, mais Dieu va me lâcher aujourd'hui. Je n'ai pas fait mon culte personnel. Oui, j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure, mais je n'ai pas fait mon culte personnel de 3 quarts d'heure. Je me souviens avec Monique, on faisait des camps famille. On a fait beaucoup de camps famille. Puis nous, on a des enfants. Aujourd'hui, ils aiment tous le Seigneur. C'est vraiment, c'est une bénédiction. C'est vraiment, on n'a rien, enfin, je crois qu'on n'a rien fait pour, mais c'est comme ça. Et dans les camps famille, on parlait de culte de famille. Voyez, alors nous, on était responsables du camp, puis on enseignait le culte de famille. Mais nous, quand on faisait le culte de famille, ça donnait un truc vraiment bizarre. Vous voyez, on réunissait les enfants, papa sortait sa guitare, et puis maman, elle essayait de faire chanter les enfants pendant que papa jouait un peu la guitare. Et puis les enfants, ils se grattaient les doigts de pied, ils rigolaient. Vous voyez, les petits gamins, tout ça. Puis à côté, il y avait des familles modèles. Il y avait une famille en particulier avec 3 filles. Elles étaient assises droites dans le camping, sur leur petite chaise de camping. Et papa lisait la Bible et il expliquait la Bible. Et les petites filles écoutaient papa qui explique la Bible. Moi, quand j'ouvrais la Bible et je commençais à lire, il posait 12 000 questions. Je n'ai jamais réussi à aller au bout d'un verset biblique avec eux, je crois. Alors on commençait à se fâcher. On les engueulait en disant « Non, non, mais tu dois écouter, c'est la Bible, c'est important. » Voyez le rapport qu'on leur a donné. Si je ne fais pas juste, Dieu peut me lâcher. Alors un jour, on a eu une illumination. Je crois que c'est toi qui as eu l'illumination d'ailleurs, je ne me souviens plus. On a décidé qu'on ferait le culte de famille pendant le petit déjeuner. Alors c'est génial parce qu'ils ont la bouche pleine de tartines. Ben ouais. Et puis on a arrêté de lire dans ma grosse Bible parce qu'il fallait ouvrir la grosse. On a lu dans une Bible pour enfants. Alors c'est pas traduit tout à fait comme il faut. Et puis il n'y a pas tous les textes. Si vous voulez lire le Lévitique, il n'y a pas. Mais c'est une bonne idée. Et nos enfants ont commencé à aimer ces moments. Et puis c'était chouette. Mais on n'a pas fait selon la méthode. Mais moi, j'avais peur que si on fait faux, Dieu ne nous bénisse pas et que mes enfants finissent en enfer. Ouais. Elle a dit, tu exagères. J'ai dit, ouais. Mais ce n'était pas très loin quand même. Hein. J'avais beaucoup de culpabilité en tout cas par rapport à ça. La troisième peur, c'est la fausse confiance dans mes richesses. D'accord ? Donc j'ai de la compétence, j'ai de la richesse, je suis doué, j'ai des relations, tout ça, et je vais aller comme ça empoigner le monde. Alors le rapport aux choses, ça donne plus c'est cher, mieux c'est. et c'est toujours mieux ailleurs. Il y a une publicité, hein. Des fois, je vous plaisante un peu sur la culture, hein. Mais il y a un truc qui est fabuleux en France, c'est votre niveau de créativité. Vous avez des ingénieurs incroyables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de trucs fabuleux que vous avez faits. Ça commence par les trucs les plus courants, hein, la Tour Eiffel. Tout le monde connaît. Ouais, mais qui a eu cette idée extraordinaire de monter une structure en métal? C'est un ingénieur français. Le TGV, le Concorde et tellement d'autres choses. La deux chevaux. Mais oui, mais c'est génial. Et il y a un truc dans lequel vous êtes hyper doué, c'est la pub. Vos pubs, elles sont fabuleuses. Si vous voulez vous endormir, vous mettez une chaîne suisse et vous regardez les pubs suisses. Alors, il y a un type qui parle en français avec un accent suisse-allemand en général, puis qui dit « Voyez ça, c'est la meilleure lessive du monde. » Et puis, on voit le paquet de lessive avec une petite étoile qui fait « Ting !» Mais vous... Ouais, c'est pas le sujet, pardon. Ouais. Bref, si je vous parle de ça, c'est à cause du « plus c'est cher, mieux c'est ». Vous vous souvenez de cette pub d'un couple qui essaye une voiture, tout terrain, ils vont partout, ils reviennent au garage, ils la trouvent extraordinaire, et puis ils demandent le prix, puis le vendeur leur dit un truc très bon marché, puis ils se regardent, puis ils disent « on va quand même pas payer si bon marché ». Je trouve fabuleux. C'est génial. Enfin bref, une pub. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai fini là. Pardon. Le rapport aux gens, c'est plus subordonné à la réussite, mais c'est subordonné au rang social. Plus le rang social est élevé, plus je veux être en lien avec. Alors ça, c'est des choses qui ne touchent pas certaines personnes. Hein. Mais il y en a que ça touche quand même. Être subordonné, être en lien avec des gens qui ont un rang social important. Le rapport à soi-même, c'est de toute façon, je m'en sors, puisque j'ai la compétence. Ça, moi, j'ai connu dans le domaine de la relation d'aide. Au bout d'un moment, après avoir fait de multiples formations, je me suis rendu compte que je n'avais plus la saine, le sain trac au début d'une nouvelle relation d'aide. Parce que je me disais, j'ai la compétence. De toute façon, je saurais quoi faire. Et je perdais ma dépendance à Dieu. Vous comprenez ? La confiance dans la compétence. Le rapport à Dieu, c'est, s'il me lâche, c'est pas trop grave, je me débrouillerai. Mais là aussi, comment vous voulez honorer si vous êtes dans ce genre de moteur ? C'est impossible. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'orphelin. Alors, quelle est la réponse de Dieu à l'esprit d'orphelin ? La réponse de Dieu à l'esprit d'orphelin, c'est l'esprit d'adoption. C'est le fait qu'il est notre Père. Et c'est ça qui nous ramène à la bonté absolue de Dieu. Parce que c'est un Père absolument bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Quand on est dans la confiance, dans la générosité, dans les qualités des enfants de Dieu, dans les qualités du royaume de Dieu. Vous saisissez ? Alors, de nouveau, par rapport aux choses. L'important, c'est la beauté. Ça, c'est une valeur du royaume de Dieu, la beauté. Vous avez déjà imaginé ça ? Lisez les descriptions de la Nouvelle Jérusalem. C'est incroyable. Imaginez la grandeur et la beauté d'un ange. On parlait de la Trinité au début, hein, et de la Péricorèse, la grande danse. La grande danse de la Trinité. Le festin des noces de l'agneau. Tout ça, ce sera beau. Et il y a des gens, quand ils ont vaincu leur peur de manquer, etc., ils sont capables de voir la beauté des choses. Nous, on a un couple d'amis qui nous ont beaucoup, comme moi, ils m'ont beaucoup appris. On voyage de temps en temps avec eux, on aime bien. Puis quand on voyage, on se fait toujours une petite journée dans les petites rues marchandes, les boutiques, tout ça. C'est un couple, elle en particulier, mais lui aussi. Hein. Ils entrent dans n'importe quel magasin et ils trouvent le truc beau. Moi, j'entre dans un magasin, je regarde les prix. Parce que j'ai peur de manquer. Parce que j'en veux pour mon argent. Parce que je suis encore dans cette armure, ce carcan, bien souvent. Eux, ils sont capables de voir le truc beau. Puis quand je leur dis, ouais, mais ça coûte combien? Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont même pas regardé. De toute façon, ils ne vont même pas l'acheter. Ils se réjouissent de voir la beauté des choses. Vous voyez? Le côté, la valeur du royaume, voir la beauté des choses. Le rapport aux gens, c'est ensemble. C'est plus j'utilise l'autre, mais on est ensemble. On cherche l'or chez les gens et on se réjouit du succès des autres. Ça, c'est la culture de l'honneur. Mon frère de 10 jours de conversion a reçu le don de l'esprit que je souhaitais avoir depuis 40 ans. Je m'en réjouis et je ne suis pas dans la crainte de manquer. Je ne suis pas dans la revendication parce que, Seigneur, j'ai bossé pour toi et maintenant j'aimerais bien me divertir avec le don de l'esprit. Vous saisissez ? Le rapport à soi-même, c'est connaître sa valeur. Je sais qui je suis. Jésus, sachant d'où il venait et sachant où il allait, mit le comble à son amour pour eux. C'est, j'ai mis un mot un peu provocant, jouir de la vie. On ne nous apprend pas beaucoup dans l'Église, et moi le premier, je suis pasteur, et quand je dis on n'apprend pas beaucoup dans l'Église, je me mets dedans. Hein. On n'apprend pas beaucoup, on ne prêche pas beaucoup sur jouir. C'est un verbe important, jouir de la vie. Dieu nous a donné la vie pour qu'on s'en réjouisse et pour qu'on soit heureux d'être rempli de sa joie pour déborder de sa joie. Bonjour, je suis chrétien. Bonjour, madame la vendeuse, je suis chrétien, vous avez un Bouddha, là, ça ne va pas. Vous voyez, ça, c'est déborder de joie. Mais on s'en fiche du Bouddha. Jésus est bien plus puissant. On peut rayonner, on peut se réjouir. On peut être heureux de voir. On peut trouver génial ce qu'ils font, même s'ils ne font rien pour le Seigneur. C'est juste bien. Et on se réjouit ensemble. Et puis le rapport à Dieu, il est bon et de bonne humeur. Dieu est de bonne humeur. Et il est bon, infiniment bon. Et rien ne peut ébrécher sa bonté, même pas le mal. Il est généreux et il est puissant pour ses enfants. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. Ça, c'est la réponse de Dieu à nos peurs. Ce que j'avais envie ce soir, après avoir parlé pendant 3 soirs des enjeux de la culture de l'honneur, de c'est quoi une culture, de c'est quoi l'honneur, c'est qu'on se laisse rejoindre dans est-ce qu'il y a un obstacle en moi à cette culture ? Il y a d'autres obstacles que la peur, mais la peur, c'est prioritaire. Il faut qu'on arrive à la dépeindre. Et s'il y a un élément que j'ai dit ce soir qui vous rejoint, moi, je vous encourage à le mettre devant Dieu en disant, Seigneur, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon cœur. Ça fait partie de ce que j'ai appris dans ma famille. Mais je ne le veux plus. Parce que ce que je veux, c'est être mis en mouvement par l'amour parfait, c'est-à-dire ta bonté absolue. Et si j'ai cru à un instant ou à un autre que ta bonté pouvait défaillir envers moi, alors je t'en demande pardon. Et je confesse que ta bonté est absolue pour moi et pour les autres. Je confesse que ton esprit d'adoption me permet maintenant de visiter le palais du roi, pour ceux qui étaient là, la maison de Tandoris, et de me redresser, et de revenir chez moi en sachant que je suis un enfant du royaume, que je suis baigné de ton amour, baigné de ta beauté, baigné de ta bonté, et que c'est ça que je veux répandre autour de moi. C'est de ça que je veux déborder. Et je veux déborder à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Seigneur, on sait que ce n'est pas facile. On sait que ça touche à des fibres profondes de notre être. On sait à quel point on doit lutter contre certaines choses. Mais en même temps, on sait, Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduit. La colombe se pose sur notre épaule. La colombe demeure sur nous. Et avec ton Esprit, dans cette collaboration, nous renonçons aux peurs et aux craintes. Et nous accueillons ton adoption, ton amour parfait, ta bonté absolue. Et nous revenons, Seigneur, nous revenons à l'essence même de la relation avec toi. Nous refusons le « Adam, où es-tu ? J'ai eu peur et je me suis caché. » Nous ne voulons plus avoir peur. Et nous voulons apprendre à être des êtres qui sont mis en mouvement par l'amour et changer de regard. Seigneur, fais-nous rayonner de ta gloire, de ta bonté glorieuse. Seigneur, accorde-nous la grâce que quand nous entrons quelque part, l'atmosphère change. Nous voulons rayonner, Seigneur, de cette révélation, de cette restauration. Et on te bénit, Seigneur, de ce que tu es infiniment patient avec nous et tu nous conduis pas à pas. Tu nous permets de progresser et d'être encouragés. Seigneur, nous refusons la fatigue de la peur et nous recevons la puissance de l'amour. Dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Thierry.